Nous allons lire le texte dans Hébreux, chapitre 12, les versets 5 à 13. Hébreux 12, 5 à 13. Au nom de Jésus. Avez-vous oublié les paroles d'encouragement que Dieu vous adresse comme à ses fils ? Mon fils, prends au sérieux la punition que t'inflige le Seigneur. Et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur punit celui qu'il aime, il frappe tout homme qu'il reconnaît comme son fils. Supportez vos souffrances comme si c'était la punition d'un père. En effet, ces souffrances prouvent que Dieu vous traite comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne punisse pas ? Si vous n'êtes pas punis comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous, nos pères terrestres, ils nous punissaient et nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour vivre. Nos pères terrestres nous punissaient pour peu de temps, selon ce qui leur paraissait juste, mais Dieu nous punit pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Et quand nous sommes punis, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont été formés par cette punition bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Relevez donc vos mains fatiguées et fortifiez vos genoux affaiblis. Marchez sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. Amen. Ce genre de texte, avouons-le, pourrait scandaliser une grande majorité de personnes pour notre époque. Punir ses enfants. Ce qui veut dire jusqu'à les frapper même. Il est dit ici que le Seigneur Dieu corrige et frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. C'est le texte qui le dit. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on peut dire qu'à notre époque, ce type de message ne peut plus être accepté. Ne peut pas être toléré. Il se peut même qu'il y a quelques-uns qui pourraient arracher cette page pour dire que ça ne peut pas être dans la Bible. Mais nous pouvons dire que l'argumentation utilisée par l'auteur, on pourrait dire aussi qu'elle est dépassée par le temps. De nos jours, la loi interdit les parents de frapper leurs enfants. C'est un acte, paraît-il, qui est considéré comme une maltraitance. Alors la question qui se pose, comment ça se fait que le Dieu de la Bible, le Dieu amour, celui que nous appelons Père céleste, prône ce genre de choses ? Supposons, je dis bien supposons, que Dieu fait un usage de la force ou de violence vis-à-vis de ses enfants. Si on revient au texte ici, sous nos yeux, quelles seraient alors les raisons si c'était le cas ? Et donc je vous invite à nouveau à revenir dans le texte et nous allons relire le verset 7. Voilà ce qui est écrit. Supportez vos souffrances comme si c'était la punition d'un père. Voilà la clé de ce texte. Comme si c'était la punition. Donc ici ce sont les souffrances. Qu'on parle de punition. Mais ce n'est pas Dieu qui punit. Mais on va le prendre comme si c'était une punition. Donc l'auteur parle de souffrances subies par ceux qui ont été destinataires de cet épître à l'époque. Donc il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant de faire une interprétation. Mais qui sont-ils finalement, ces gens qui ont reçu cette lettre ? Ce sont des chrétiens juifs qui se sont convertis du judaïsme vers le christianisme. Et pour eux, ce n'était pas du tout facile de se convertir et de devenir chrétien. Parce que, au moment où ils allaient se convertir, ils étaient considérés comme des traîtres. Et surtout, par la suite, et ça il faut le connaître, ils étaient déshérités. Beaucoup ont été déshérités de leurs parents. Ils ne pouvaient plus hériter leurs parents parce qu'ils ont trahi leur religion. Et ça, ça se passe jusqu'à maintenant, dans plusieurs religions qui existent. Tu as osé trahir la famille, la religion de nos ancêtres, et ils ont été déshérités. Et à l'exemple, ils ne pouvaient plus, par exemple, entrer au temple, ces juifs qui sont devenus chrétiens. Donc, ce n'est pas pour rien que l'auteur utilise les termes suivants dans ce texte. Regardez à chaque fois verset 5, verset 6, verset 7 et jusqu'au verset 8. Il dit « Dieu vous adresse comme à ses fils » verset 5 A, verset 5B « Mon fils ne craint pas » le mot « fils » revient à chaque fois. « Il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils » verset 6. Et au verset 7, ça revient encore « Il vous traite en effet comme ses fils » et ainsi de suite. Donc on sent l'accent que vous êtes toujours des fils de Dieu, même si la société vous a déshérité, même si vos parents vous ont déshérité, vous êtes toujours les fils d'Abraham. Parce que c'est ça qui était la source de leur tristesse, de leur douleur, ne plus être considérés parmi les enfants d'Abraham. Et dans les oreilles et dans le cœur d'un juif, parce que cette lettre a été envoyée pour les juifs chrétiens à ce moment-là, ces phrases ont une résonance assez particulière. Un fils reconnu, un fils aimé ou un fils préféré de son père. Ça, c'était très important. Un fils préféré de son père. Pour un juif, ça a un sens particulier. Par exemple, dans l'histoire d'Israël, il y avait toujours une tension avec les fils bien-aimés. Celui qui va hériter son père. Voici quelques exemples. Isaac, préféré à la place d'Ismaël. Joseph, le rêveur, jalousé par ses frères, et ils l'ont même vendu comme esclave pour l'Égypte. Et enfin, l'histoire douloureuse de David. Les fils innombrables de David. La bataille à la succession de son trône, lorsqu'il a choisi Salomon, fils de Bathsheba, comme roi d'Israël. Donc tout ce background derrière fait écho chez un juif ou un israélite lorsqu'on parle de fils légitime, de fils aimé, de fils reconnu par son père. Et c'est justement le langage utilisé par les détracteurs juifs, nouveaux convertis au christianisme à cette époque. Vous ne faites plus partie des fils légitimes. Ça, c'était la phrase qui tue. Vous ne faites plus partie des descendants d'Abraham. Et c'est à la limite d'une insulte, comme si on vous disait « vous êtes des enfants bâtards ». Mais souvenons-nous que les pharisiens, eux aussi, ils ont dit des choses exactement pareilles à Jésus. « Oh, nous ne sommes pas des esclaves de quiconque. Nous sommes les descendants d'Abraham. » Ce qui implique que celui ou celle qui n'appartiennent plus aux sphères abrahamiques, aux sphères juives, deviennent des esclaves. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe et dans l'évangile de Luc, que Dieu, à une époque, ira chercher même des prêtres et des lévites dans d'autres nations. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le langage utilisé par l'auteur, ici, chers frères et sœurs, ne doit pas être pris au premier degré. c'est-à-dire considérer que Dieu est la même façon d'agir et de réflexion comme l'homme, comme on dit ici, un Dieu qui punit son peuple comme un père qui punit son fils. Ça, c'est du de l'anthropomorphisme, comme on dit. L'auteur réutilise cette illustration dans la relation du père et du fils et la transforme dans le but d'exhorter son Église en leur faisant comprendre qu'ils sont vraiment les fils bien-aimés. Les fils bien-aimés, contrairement à ce que les autres juifs voulaient les faire croire, que vous faites plus partie de la famille de Dieu. Ils ne sont pas des enfants maudits, comme on veut le faire croire. Si tous ces malheurs leur tombent dessus, parce qu'il y avait la persécution à ce moment-là. Et tout ce qui s'est passé dans la vie de ces chrétiens-là, ce n'était que les fruits de représailles de la part de ses propres frères de sang, mais ça ne venait pas de Dieu. Ce n'était pas une malédiction, parce qu'eux, ils croyaient qu'ils étaient maudits, et tout ce qui leur arrivait était le fruit de leur trahison à leur religion d'origine. La consolation donnée pour les destinataires de cette épître n'est pas une simple phrase à vide de sens. Elle a une fondation solide. Car par exemple, lorsqu'Abraham a apporté Isaac avec lui pour l'offrir en holocauste, rappelez-vous de cette histoire, Dieu lui a demandé son fils unique, c'est-à-dire son bien-aimé. Et cette histoire n'était qu'une sorte de, finalement, une sorte de bande-annonce de ce qui va se passer plus tard avec le Christ. Le Fils qui a été déclaré, « Voici mon Fils bien-aimé, Jésus », il a été livré aux païens. Il a été lynché par le peuple. Le Fils bien-aimé a été livré, massacré. Et donc le message de l'Évangile mis en exergue dans ce texte est le suivant. Dieu a donné ce qu'il aime. Dieu donne ce qui est de plus précieux pour lui, le meilleur parmi d'entre nous, son Fils bien-aimé. Et c'est vraiment cela l'amour, chers frères et sœurs en Christ. Et donc, enlevons-nous de notre tête que si jamais nous sommes maltraités par des hommes ou délaissés par nos familles, cela ne veut pas dire que nous sommes maudits ou détestés de Dieu. Même le Fils de Dieu a vécu cela. Les choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours ne doivent pas devenir des thermomètres pour mesurer la relation que nous avons avec Dieu. Ça, c'est le piège que le diable veut nous faire croire. Les choses qui nous arrivent ne doivent pas devenir des thermomètres. Et c'est d'ailleurs à cause de cette attitude que nous avons que le psalmiste Asaph aussi, lui, a failli tomber dans l'erreur. En avouant dans le psaume 73, il dit « J'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe, dit le psalmiste. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu et j'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. » Et c'est un peu aussi notre attitude. Parfois, on regarde les gens à côté de nous et on se dit, mais à quoi ça sert que je prie? À quoi ça sert que je suis le Christ si je vis ces souffrances? Or, celui qui est juste à côté de moi, qui ne connaît même pas le nom de Dieu, il vit dans l'aisance. Dans tout ce qu'il veut, il peut recevoir. Et beaucoup tombent dans ce piège. La réussite et l'échec font partie de la vie de l'être humain. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu n'auras pas d'échec dans ta vie. Ça, il faut enlever de notre tête. Voire même des problèmes ou des catastrophes, même en tant qu'enfant de Dieu, on pourrait avoir des catastrophes dans la vie. C'est ce que Jésus avait mentionné dans Luc chapitre 13, versets 2 à 3. Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, dit le Seigneur. Souvent, nous voulons mettre Dieu dans une boîte où nous imposerons une étiquette prédéfinie avec un mode d'emploi que nous avons nous-mêmes fixé. Voilà comment Dieu agit. Et lorsque Dieu ne suit pas la ligne que nous avons tracée, alors nous dirons, il est injuste. Le livre de Job nous aide à comprendre mieux que Dieu n'est pas obligatoirement responsable du bien ou du mauvais qui arrive dans nos vies. Job dit clairement, comme je l'avais dit tout à l'heure, si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? Et ça, c'est une parole de sagesse profonde. Il dit que si nous acceptons, supposons, je ne veux pas dire que Dieu ne nous donne pas la bénédiction dans nos vies, mais il ne faut pas tout de suite entrer dans un mécanisme dangereux pensant que si Dieu me donne une chose, c'est à cause d'une notion de rétribution. Par exemple, à chaque fois que vous recevez une réponse à vos prières, ne cherchez pas la cause. Pourquoi vous avez reçu cette réponse? Parce que c'est là la tentation du diable. Ah, tu l'as mérité parce que tu as beaucoup prié. Tu t'es agenouillé 10 fois par jour. Tu as fait ceci et cela, et c'est pour ça que tu as reçu cette réponse. Non, il ne faut pas lier ces choses-là de ce que nous avons pu faire. C'est une grâce. Et pour terminer cette méditation, il y a un cantique qui dit « Ne me permets pas de savoir le pourquoi d'une nuit glaciale, ni le lever du soleil. » Ne me permets pas de savoir le pourquoi de la joie que tu me procures, ni les raisons de mes larmes. Et ne me permets pas de forger le lendemain qui t'appartient. Et ne me permets pas de mesurer ta providence. Ce message-là que je vous adresse, ne cherche pas à trouver des explications sur le pourquoi de ta joie et sur le pourquoi de ta souffrance. Amen.